Quatrième partie. Ce que la suite donna, une alliance tacite mais fidèlement observée de protection mutuelle, de petits services journaliers rendus et reçus sans grand discours, les fleurs de deux tombes renouvelées chaque semaine et, tous les soirs, une sérénade que Thérèse écoutait de sa fenêtre et qui lui était devenue une si douce habitude qu'elle n'aurait plus su comment s'en passer. Le mois de juin s'était envolé avec les fleurs du lilas. On était au milieu de juillet. Les prairies commençaient à prendre cette teinte rougeâtre des graminées mûres et n'attendaient plus que la faux. Car aux montagnes, les fenaisons ont lieu à l'époque où l'on fait la moisson dans la plaine. Mais cette année-ci, Marcel prenait moins part aux travaux des champs qu'il ne l'avait jamais fait. Et c'était grand dommage, assurément, pour la santé de son corps comme pour celle de son esprit. La vie qu'il menait n'était ni saine ni normale. Sa réputation de musicien s'étant rapidement répandue, on venait le chercher de tous les coins du pays et Félix Prenel ne disait jamais non. Quatre ou cinq fois par semaine, Marcel passait à jouer, sinon la nuit tout entière, du moins une grande partie de la nuit, et il avait parfois plusieurs lieux à faire pour regagner la maison. Son organisation nerveuse lui permettait de supporter cette fatigue sous laquelle tel gaillard de plus robuste apparence eût bientôt succombé. La seule concession que Thérèse put obtenir, après avoir subi bien des rebuffades, fut que Marcel serait libre de se reposer pendant le jour autant qu'il le voudrait. « C'est une exploitation !» s'écria-t-elle un matin en apprenant que Marcel n'était rentré qu'au petit jour et en le voyant pâle et les yeux cernés. « Eh bien, oui, » répondit tranquillement son père. « Est-ce que tout n'est pas exploitation en ce monde? Est-ce que nos vaches, nos forêts, nos ouvriers sont faits pour autre chose? Est-ce que les marchands qui nous achètent nos bois et nos fromages ne nous exploitent pas aussi? Si vous ne mangez pas, vous serez mangés. C'est la loi et les prophètes. » Et il s'en alla. Depuis 2 mois à peu près qu'il vivait de cette vie agitée, Marcel avait appris bien des choses. S'il avait commencé tard à ouvrir les yeux, au moins les ouvrait-il tout grand maintenant, et rien n'échappait à son observation silencieuse. Sa simplicité ne le quitta pas tout d'un coup, et cette phase de son développement, rapide et violente comme une crise, fut douloureuse parfois. L'arbre de la science du monde a des fruits amers. Jusqu'alors, Marcel avait senti confusément la méchanceté lorsqu'elle l'atteignait, il apprit à la reconnaître. Lentement, et comme par lueur, il vit jour au plan de son maître. Il n'en dit rien à personne, mais certaines idées se groupaient dans son esprit, il tirait des conclusions, en un mot, il sortait de son indifférence. La manière dont il laissa voir pour la première fois ce travail de sa faculté de raisonnement pourra sembler peu poétique à mes lecteurs, mais Marcel n'était pas un être pétri de nuages, et son intelligence, une fois éveillée, sut apercevoir les nécessités pratiques de l'existence. Seulement, elle vit toujours quelque chose au-dessus et par-delà. « C'est un désavantage, disent les experts. Si vous regardez les étoiles, vous vous butez aux cailloux de la route. Pour faire son chemin dans le monde, il ne faut pas trop lever les yeux. » Ainsi, Félix Prenel eut toujours facilement raison de Marcel Auvernet, même quand celui-ci ne fut plus le garçon sauvage et simple d'esprit qu'il avait rencontré à la lisière du bois par une belle matinée de juin. Un samedi donc, c'était le dernier du mois et jour de paix, Marcel fut appelé dans la grande chambre du rez-de-chaussée où les domestiques entraient rarement. Le maître était assis à son bureau, un livre de comptes ouvert devant lui et alignant des piles d'écus. « Voici ce qui te revient, » dit-il en appelant Marcel d'un geste. « 15 francs, c'est en règle, n'est-ce pas? Tu vois que je paie rubis sur l'ongle sans tarder d'un jour seulement. Les bons comptes font les bons amis. »« Merci, » dit le jeune homme sans paraître toutefois pénétré d'une très vive reconnaissance. « Et le reste de l'argent ?» « Que veux-tu dire? Tu as 3 écus par mois. Mais on vous paie 10 francs par nuit pour ma musique. » Le fermier s'attendait si peu à une réclamation aussi catégorique de la part du grand rêveur qu'il en resta un instant pétrifié. « Qui t'a raconté cela ? » dit-il enfin. « Tout le monde. »« C'est avec Thérèse que tu en as parlé !» s'écria Félix Prenelle, à qui le dépit fit oublier toute réserve. « Jamais !» répliqua Marcel avec indignation. « Je sais bien que vous me faites du tort, mais ce n'est pas à votre fille que j'irai le dire. » Le paysan demeura bouche close. Au bout d'une minute, pourtant, il reprit « Tu crois donc que je te fais du tort ? Je pourrais te répondre simplement en te mettant sous les yeux notre marché. » En même temps, il tira de son portefeuille un papier plié en quatre que le jeune homme reconnut aussitôt. Félix Prenel l'ouvrit lentement et l'étala sur le bureau. « Lis ceci. Tu es devenu si fin ces derniers temps que tu le comprendras sans doute mieux que lorsque tu l'as signé. » Et de l'index, il soulignait une phrase ainsi conçue. « Le dit Marcel Auvernet ne pourra se louer à personne, pour quelque besogne que ce puisse être, sans l'autorisation du dit Félix Prenel, qui réglera lui-même les conditions. » « Au terme du marché, reprit-il, je pourrai garder tous tes gains. Que diable, si tu travailles la nuit, tu te reposes le jour. Quand nous serons au gros des fenaisons, je devrai engager un autre domestique pour faire ta besogne. Ça ne me coûtera rien, je pense. Malgré ça, je te paie. Tu es bien nourri, Thérèse te soigne comme la prunelle de ses yeux. Elle te gâte même et il faudra que j'y mette le holà. Quand tu es fatigué, tu te reposes. Je voudrais bien pouvoir en faire autant. Avec tout ça, tu n'es pas content ? Eh bien, garçon, va chercher ailleurs. Je ne te dis que ça. » Marcel n'avait pas prévu cette conclusion foudroyante. Quitter les Alizier, c'était ne plus voir Thérèse. Il pâlit et porta la main à sa gorge, comme si quelque chose l'étranglait. Mais le fermier eût été bien fâché d'être pris au mot. « Quant à moi, poursuivit-il, je suis toujours pour qu'on s'arrange à l'amiable. Pourquoi t'es-tu fourré dans la tête que je voulais te faire du tort ? Tu as une flûte d'or, il est juste que tu en profites aussi. J'allais te dire qu'à la fin du mois prochain, je mettrai pour toi 50 francs à la caisse d'épargne. » Marcel aurait pu répliquer qu'il en avait déjà fait gagner 4 fois autant à son maître. S'il ne le fit pas, c'est qu'il n'était probablement pas encore très fort en arithmétique commerciale. Il ne devait jamais l'être, puisqu'il n'eût pas vendu contre tout l'or du monde le bonheur de vivre sous le même toit que Thérèse. Il murmura un remerciement et sortit au plus vite, s'estimant heureux de n'avoir pas été congédié en punition de sa hardiesse. Si quelque sage ami de Marcel eût désiré le guérir de sa sauvagerie, il n'eût pu mieux faire que de choisir pour cela précisément le genre de vie où Félix Prenel l'avait lancé. Seulement, ce remède risquait de le guérir un peu trop. Voyant chaque soir de nouvelles figures, Marcel n'avait plus de ces éblouissements qui le prenaient autrefois à la moindre rencontre et lui faisaient perdre la tête. Mais les conversations grossières, les propos équivoques, les gestes avinés, le tapage des salles d'auberge, tout cela glissait-il sur lui sans laisser de traces dans son imagination ? À force de se déniaiser, ne deviendrait-il pas vulgaire ? Certainement, il apprit là des choses qu'il eût tout aussi bien pu ignorer. Mais l'image de Thérèse lui fut souvent une sauvegarde. Il ne lui vint jamais à l'esprit de conter fleurette aux jeunes étourdis qui n'eussent pas mieux demandé que de se laisser faire un doigt de cour par le beau musicien. Les meneurs de la bande joyeuse s'étaient chargés de l'éducation de Marcel. Il y eut un soir une vraie conspiration contre lui pour le griser, mais toutes les manœuvres échouèrent contre cette réponse assez raisonnable « Je n'ai plus soif ». Simple que tu es, crois-tu donc qu'on boit parce qu'on a soif ? On eut beau faire, il garda ses préjugés et son éducation resta incomplète sur ce point. Cependant, il était facile de voir que Marcel se fatiguait. Les travaux des champs, la vie en plein air à laquelle il avait été accoutumé, lui manquaient. Son existence actuelle avait un décousu, un « va comme je te pousse » écœurant à la longue. Le soir, à minuit surtout, le jeune musicien se sentait surexcité et il jouait avec plus de brio et de feu. Mais le matin, il était brisé. Ses yeux cernés avaient parfois un éclat fébrile. S'il allait au champ dans l'après-midi, il s'étonnait de trouver la pioche ou la faux pesante. « Ce garçon fond comme une chandelle, » dit un jour Alvine. « ça n'a rien d'étonnant quand on vit à rebours comme il le fait. Il ne sait plus ce que c'est que d'être dans son lit à 10 heures, ainsi que les honnêtes gens. Mademoiselle Thérèse, vous devriez décidément en dire un mot au maître. »
« J'ai déjà essayé bien des fois, » répondit la jeune fille avec un soupir. « Si mon père se grippe contre Marcel, il n'y aura plus moyen pour lui d'y tenir. Qu'en penses-tu, Alvine? Faut-il lui conseiller de quitter la ferme? Il me manquera, » ajouta-t-elle au bout d'un instant, comme si ce mot lui eût été dur à prononcer.
« Sans vous commander, mademoiselle, j'essaierai encore une fois d'entreprendre le maître. Dites-lui qu'on ne traite pas ses domestiques comme des nègres de barbarie, qui n'a pas plus de cœur qu'un vieux clou. Excusez, mais enfin, c'est comme ça. Vous lui tournerez la chose doucement et il vous écoutera. »
« Bien, dit Thérèse, je lui parlerai ce soir. Et s'il faut que Marcel parte, cela vaudra mieux pour lui, je suppose. »
On était en pleine fenaison. Le temps avait été beau à souhait jusqu'alors. Quatre robustes faucheurs, engagés depuis une semaine, avaient abattu bien de la besogne. Et le soleil, de son côté, montrait tant de bon vouloir que l'herbe séchait en un jour sans qu'on eût seulement à retourner les andins. « On ne voit pas cela une fois en 10 ans !» s'écriaient les faneurs enchantés. Mais le paysan n'était jamais satisfait. « Oui, oui, disait Félix Prenel, d'un ton d'approbation indulgente. Pour un joli temps, c'est un joli temps. Mais c'est égal, il y a trop de chardon dans notre foin cette année. La mauvaise graine lève toujours mieux que la bonne. Et toi, l'ami, au lieu de chanter la Marseillaise, tu ferais bien de garder ton souffle pour une meilleure occasion. » D'un bout à l'autre de la prairie régnait la gaieté. Quand le soleil se met de la partie, que les faneuses sont avenantes, les faux bien aiguisés et le vin pas trop mauvais, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Cependant, la première de ces conditions de félicité menaça de faire défaut tout à coup. Un matin, le baromètre eut une baisse subite, comme cela a lieu avant un orage. « Nous aurons du bouillon, » fit le paysan d'un air contrarié. « Le bout de bise est déjà fauché aux 3/4. Il faudra tâcher de tout rentrer avant 4 heures. Sonne le grand branle-bas, Alphonse, tout le monde au champ. Pour aujourd'hui, Thérèse, il faudra te tirer d'affaire seule. J'ai besoin des 2 servantes et d'Alvine. » Jusqu'à midi, le ciel resta pur. L'air était d'une merveilleuse transparence et l'horizon très rapproché. Tout au fond, au-dessus des dernières sinuosités de la chaîne qui dominait le plateau, un flocon blanc montait comme une fumée. Quand on descendit à la ferme pour le repas, quelques nuages se tramaient paresseusement le long de la montagne et, comme on dînait, la vaste cuisine devint graduellement très sombre. « Dépêchez-vous, » fit le maître avec impatience. « Quand vous en êtes à emballer du bœuf et des pommes de terre, on dirait que vous avez des armoires en guise d'estomac. Nous ne pourrons pas rentrer 3 chars avant la rincée. » Il sortit un instant dans la cour et considéra l'état du ciel avec inquiétude. Tout était voilé maintenant. De lourdes masses nuageuses d'un blanc sinistre roulaient sur un fond gris uniforme. Les sapins étaient noirs comme des fantômes. Le vent soufflait à peine. Tout était silencieux et comme recueilli dans une attente effrayée. « Il n'y a pas une minute à perdre, » déclara le fermier en rentrant. « Vous achèverez votre dîner plus tard. » « J'irai avec vous, » dit Thérèse. « Quand il le faut, je suis aussi bonne qu'une autre pour charger. » Tout le monde partit donc. Félix Prenel ferma lui-même les portes, mit les clés dans sa poche, puis posta au bas de la pâture un petit garçon chargé de rassembler le troupeau dans le cas où il ferait du tonnerre. Le pré du bout de bise, où l'on avait fauché toute la matinée, était à la limite du domaine et éloigné de la ferme de 10 minutes environ. 2 ou 3 chars vides s'y trouvaient déjà. Les ouvriers en amenèrent d'autres. On se mit à les remplir en démolissant avec une noble ardeur les hautes meules odorantes, encore chaudes à la main, et que le soleil avait si bien roussi. Quel dommage ce serait de laisser mouiller ce bon foin, s'écria Félix Prenel. Hardi, mes beaux garçons, qu'on descende avec les 2 chars qui sont prêts et qu'on remonte lestement. « Voici un autre beau garçon, patron, puisqu'on en est à se faire des compliments. »
Dans le sentier qui longeait la prairie, descendait Léon Tonin, la tête haute, l'air très dégagé. « Pour vous donner un coup de main avant la pluie, vous savez que je suis votre homme, » dit-il en s'avançant. « Ce n'est pas de refus. Prends une fourche, fais comme si tu étais à la maison. » « Qui sait si je ne serai pas bientôt ici, plus à la maison que vous ne pensez ?» murmura le jeune homme en s'éloignant. Le secours d'une robuste paire de bras supplémentaires n'était pas à dédaigner, car l'orage approchait rapidement. Quelques rafales avaient passé, sifflant dans les arbres et éparpillant les brindilles qui traînaient à terre. Bien loin, un grondement sourd s'était déjà fait entendre. Il fallait l'oreille exercée d'un paysan pour discerner si ce bruit était celui du tonnerre ou seulement des chars de foin roulant sur le plancher des granges éloignées. De temps en temps, l'horizon s'éclairait d'une lueur bleuâtre et vague comme l'aube. Les nuages filaient plus vite. « Nous avons encore un quart d'heure, » dit le maître. « L'orage suit ce côté-ci de la montagne. Il sera violent si je ne me trompe. Alvine, vous auriez dû remettre votre lessive à aujourd'hui. » « Comme ça, nous n'aurions pas eu une goutte de pluie jusqu'au soir. »« Si on savait tout, » répliqua-t-elle sèchement, « ce serait bien commode, et il y aurait aussi moins de poulets croqués par les renards. » Après cette réplique mystérieuse, et qui semblait ne répondre à rien du tout, elle tourna le dos à son maître sans plus de cérémonie. L'orage, en effet, comme l'avait bien vu Félix Prenel, suivait le côté nord de la vallée, attiré sans doute par la rivière rapide qui coulait derrière ce versant. Déjà, le fond du ciel s'éclaircissait, comme balayé par la tempête. Mais dans la petite vallée, une lumière jaune, sinistre, remplaça l'éclat de midi. Les nues plombées parurent s'abaisser lourdement jusqu'à toucher la cime des sapins. Du côté de l'ouest, des éclairs brillaient sans interruption, accompagnés d'un roulement continu. Rien n'est plus majestueux qu'un orage dans les montagnes, avec ses illuminations subites, les profondeurs fulgurantes qui s'ouvrent comme des gouffres déchirés au sein des nuages, les cimes et les champs qui semblent s'animer et trembler sous cette lumière palpitante. Mais la troupe des travailleurs dispersés dans la grande prairie ne s'arrêtait pas, on le comprend, à admirer l'orage. C'était l'ennemi qu'il fallait fuir au plus vite. Tout au bout du pré, la nécessité d'achever un char avait réuni en trio Léon, Marcel et Thérèse. Le premier chargé, Marcel donnait, suivant l'expression consacrée, et la jeune fille rattelait les dernières poignées de foin qui traînaient à terre. Tous trois se hâtaient silencieusement et trouvaient la position embarrassante. « C'est fini, » dit Léon en serrant la corde qui devait maintenir en équilibre tout l'édifice. Puis il sauta à terre et prit le cheval par la bride pour descendre à la ferme sans perdre de temps. Ainsi, il se trouva tout à côté de Thérèse. Marcel, qui était à deux pas, le regarda subitement et rencontra ses yeux noirs pleins de rancune et de défi. En cet instant, une ligne de feu, aiguë, aveuglante, déchira l'air et parut s'enfoncer dans le sol non loin d'eux. Un craquement épouvantable suivit aussitôt. « Marcel !» s'écria Thérèse effrayée en s'élançant vers lui par un mouvement instinctif dont elle rougit une seconde après. « N'ayez pas peur, » dit-il en réprimant une folle envie de l'attirer tout près et de la serrer contre lui pour la protéger. « Regardez là-bas !» Tout au bord du bois, à 20 pas à peine, un vieux sapin, vétéran solitaire qui avait subi les orages de 2 siècles au moins, venait d'être brisé par ce coup de foudre. Les branches fracassées pendaient le long du tronc, où un large sillon creusé dans l'écorce marquait le passage du terrible fluide. Tous les travailleurs, immobiles et silencieux, semblaient avoir été frappés d'eux-mêmes. Quelques-uns s'étaient signés. « Personne n'a de mal, j'espère !» dit Thérèse en se remettant de son effroi. Elle s'éloigna de Marcel sans oser le regarder, honteuse d'avoir trahi. Quoi ? Elle ne le savait pas elle-même clairement. Si elle avait levé les yeux sur lui, elle eût vu qu'il tremblait plus qu'elle. Il n'avait résisté que par miracle à une soudaine impulsion de la prendre, de l'emporter dans ses bras, de lui dire quelque chose qui brûlait ses lèvres. Il croyait la sentir encore se presser contre lui pendant une seconde, et l'accent avec lequel elle avait crié « Marcel !», il l'entendait vibrer dans l'air. Se sentant saisi par une sorte de vertige, il s'enfuit à l'autre bout de la prairie. De larges gouttes de pluie commençaient à tomber, mélangées d'une grosse grêle.
« Sauvons tout ce qu'on pourra sauver !» cria Félix Prenelle. « Léon, qu'attends-tu pour descendre? On dirait que le tonnerre t'a frappé !»
Certainement que, dans un sens, la foudre était tombée sur lui. L'incident de tout à l'heure avait été une révélation aussi prompte, aussi éblouissante que l'éclair. Ce qu'il avait vu et compris, ou plutôt ce qu'il s'était imaginé comprendre, était tellement en dehors de toute prévision qu'il restait là, décontenancé aussi bien que furieux. « C'est donc de ça qu'il retourne » murmura-t-il en prenant la tête du cheval pour descendre la charrière rocailleuse qui menait à la ferme. « Elle est folle, elle qui n'aurait qu'à choisir entre les plus beaux garçons, sans parler des plus riches. » Ici, l'image de Marcel se dressa devant lui, tel qu'il venait de le voir dans la lumière de l'orage, penché vers Thérèse, le regard brillant de tendresse et de fierté, et si changé dans tout son être que même les yeux prévenus de Léon ne pouvaient refuser de s'en apercevoir. C'était un innocent quand il est arrivé aux Alisiers. Maintenant, c'est un homme, fit-il en reprenant son monologue. Raison de plus pour que je le fasse mettre à l'ombre. Ça ne me sera pas bien difficile. Le père ne se doute de rien à ce qu'il paraît. Nous verrons comment il prendra cette amourette. Mais il ne faut pas me couper l'herbe sous les pieds à moi-même. Si Thérèse apprenait que j'ai démoli sa gentille intrigue, elle m'en voudrait à mort. Et comme elle est aussi opiniâtre que... moi, acheva-t-il faute d'une meilleure comparaison, jamais je ne tiendrai mon héritière. C'est tout de même un joli morceau, ce domaine, continua-t-il en promenant ses regards sur les prés récemment fauchés, les champs qui jaunissaient, la vaste pâture, la forêt et les beaux bâtiments de la ferme bien abrités derrière une éminence. Je n'ai pas le sou, c'est vrai, mais je suis jeune et le premier contrebandier du pays. Qu'est-ce que Félix Prenel ferait sans moi? En automne, quand le grand moment de la passe sera venu et que les marchands de fromage de là-bas réclameront leur livraison à cor et à cri, alors j'entreprendrai le patron. Je lui mettrai le couteau sur la gorge. Votre fille, ou bien je vous lâche. Et nous verrons s'il ne courra pas après moi pour me prier d'être son gendre et de lui continuer mes services. Les autres gars de la bande de nuit ne sont que des marionnettes. Si je ne tire pas les fils, pas un ne bougera et papa Prenel sera dans la glu jusqu'au cou. Sans compter qu'on rirait bien de lui dans le pays s'il était obligé, à son âge, d'en passer par la ficelle de la douane. Mais pour commencer, il ne faut pas que Marcel mange encore longtemps son pain aux alisiers. Tiens, voilà Adolphe qui remonte. Si je pouvais l'attraper, je lui sifflerais un mot à l'oreille. J'ai besoin de lui pour mon affaire. Il paraît qu'il y réussit, car Adolphe, un quart d'heure plus tard, se montra parfaitement stylé et à la hauteur de sa mission. La pluie était devenue une averse torrentielle et qui n'en finissait pas. Tandis que Léon, tranquillement assis sous l'avant-toit de la grange, fumait une pipe en regardant ruisseler les gouttières, les pauvres gens restaient là-haut, s'abritaient du mieux qu'ils pouvaient, abandonnant au milieu du pré les chars à demi remplis, les fourches et les râteaux. Il était bien inutile de se laisser mouiller soi-même, puisqu'on ne pouvait empêcher le foin de l'être aussi. Thérèse et Alvine s'étaient réfugiées sous une vieille guérite vermoulue qui avait servi autrefois à un casseur de pierre. Les deux servantes et les hommes s'adossaient au tronc des arbres voisins, le tonnerre ayant cessé complètement. Debout sous un hêtre, qui était un assez mauvais parapluie et l'arrosait plus qu'il ne l'abritait, Félix Prenel contemplait l'averse avec la mine d'un homme qui en a bientôt assez d'une mauvaise plaisanterie. Tout à coup, son maître valet vint se placer à côté de lui. « On est moins mouillé ici, je crois, » dit-il pour expliquer son changement de résidence. « Quelle mazette vous êtes, vous tous !» répliqua le fermier avec humeur. « Vous ne fondrez pas pour un peu de pluie. » Alphonse ne répondit rien, mais au bout d'un instant, il se pencha et allongea le cou, comme s'il cherchait à découvrir quelque chose. « Eh bien quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore ?» s'écria Félix Prenel. « Regardes-tu s'il pleut des grenouilles ?» « Pas si bête tout de même, patron. Marcel Auvernet est là-bas, en face, et je me disais que mademoiselle Thérèse ne devait pas être bien loin. » C'était brûler hardiment ses vaisseaux. Ayant commencé ainsi, il n'y avait plus qu'à poursuivre. Le maître valet reprit. « Il aime bien, je crois. Il a su partout. Ça n'a rien d'étonnant, mademoiselle Thérèse est si bonne pour lui, pauvre Bouëbe, dont tout le monde faisait fi il n'y a pas 3 mois. Ses fleurs, par exemple, qu'elle porte chaque semaine sur la tombe de la vieille Anastasie. Malgré l'indifférence réelle ou feinte avec laquelle le fermier avait écouté le début de ce discours, il ne put réprimer ici un léger soubresaut. « Vous ne saviez pas ça, maître ?» dit Alphonse d'un air innocent. « Mais on ne parle plus d'autre chose au village. » Et chacun trouve que c'est bien gentil de la part de mademoiselle Thérèse. Si Marcel ne lui en savait pas gré, il serait un fier mauvais sujet. Cette petite sérénade que nous entendons chaque soir et que mademoiselle Thérèse écoute du jardin ou de la fenêtre, c'est sa façon de remercier à ce garçon-là, car il n'a de l'esprit que lorsqu'il tient son instrument. Après tout, c'est un bon compagnon. « Voilà la pluie qui cesse !» interrompit le fermier. « Allons reprendre nos outils. » Hola, hé, vous autres, il s'agit de regagner le temps perdu. Cependant, tandis que tout le monde autour de lui se remettait à l'œuvre avec zèle, Thérèse le vit plusieurs fois inactif, appuyé sur le manche de sa fourche et regardant droit devant lui d'un air absorbé. Alphonse s'attendait à un interrogatoire et il s'apprêtait à y répondre de ce même air niaisement vertueux qui donnait à sa délation l'apparence d'une effusion innocente. Mais il connaissait bien mal son maître. Félix Prunel ne questionnait pas, il réfléchissait, puis il agissait. Tout le reste de l'après-midi, il se montra sévère et cassant. Il n'adressa pas la parole à Alphonse, mais il tensa d'importance un chargeur maladroit qui avait brisé sa fourche. Puis il trouva le foin mal entassé, se plaignit de ce qu'on ratelait négligemment. Tout le monde de son couplet, à l'exception de Marcel et de Thérèse. Il leur parla amicalement, presque affectueusement, si bien qu'Alphonse ouvrait de grands yeux. Était-ce donc à cela qu'avait abouti son ingénieux discours? Le maître valet n'était pas encore assez diplomate pour jouer au plus fin avec Félix Prunel. À la nuit close, tout le monde redescendit aux Alisiers. On soupa silencieusement. L'humeur acerbe du maître intimidait la conversation. « Sur quelle herbe a-t-il donc marché ?» se demandait-on en quittant la table. « Ma foi, ce serait difficile à dire. Il y avait bien des herbes dans le pré. Mais si ça continue demain, je fais grève. »« Toi, Marcel, » dit le fermier en retenant le jeune homme au moment où celui-ci s'apprêtait à sortir avec les autres. « Tu vas descendre directement au village pour les commissions que je te donnerai. »« Directement, tu m'entends ? Fais-nous grâce pour ce soir de ta sérénade sous les noisetiers, ça m'agace les dents. » Thérèse, blessée, allait lancer une vive réplique. Son père ne lui en laissa pas le temps, car il entra dans sa chambre, dont il ferma la porte à clé. « Je n'y comprends rien, » dit la jeune fille à Alvine. « Ce matin, il était de si belle humeur, et tout d'un coup, le voilà qui tourne de vent en bise, sans qu'on lui ait rien fait. « C'est la pluie, » répondit l'oracle. « En temps de fenaison, vous savez que l'humeur des paysans change avec le baromètre. » Félix Prunel était assis à son bureau, la tête dans ses mains, occupé à prendre une résolution. Il cherchait le pour et le contre, pesait, balançait, comparait. Une fois que l'addition serait bien faite des deux côtés, il verrait clairement quel plateau l'emporterait sur l'autre. « Thérèse n'est pas folle à ce point, » pensait-il. « C'est ma fille, elle ne lit pas de romans, et Marcel n'est pas assez beau pour lui avoir tourné la tête. » Et il est impossible qu'il y ait eu même un commencement d'amourette. Seulement, elle s'occupe trop de lui et les gens en parlent. J'y mettrai fin. Comment ? Le fermier se leva et marcha à grands pas dans la chambre, comme pour éveiller sa faculté maîtresse, la ruse, qui, du reste, n'était nullement endormie. Je pourrais renvoyer Marcel s'il fallait en venir aux grands moyens. Mais ce garçon est pour moi comme les 5 sous du juif errant, avec cette différence qu'au lieu de sous, ce sont des écus qu'il met dans ma poche. Il m'a déjà rapporté, voyons, combien. C'est une bénédiction que des individus de cette pâte. Marcel n'a pas encore senti que je l'exploite, comme dit Thérèse. D'ailleurs, l'exploitation ne lui fait pas trop de mal, autrement il crierait. Tant que je pourrai, je le garderai. Mais ma fille aura son sermon, et tout de suite. » Ouvrant alors la porte qui donnait dans la cuisine, il appela. « Thérèse ! Thérèse ! » !»« Ma maîtresse est dans la cour, » répondit Alvine d'un ton majestueux. C'était par un de ces beaux soirs d'été dont la transparence ne saurait s'appeler nuit. Le couchant avait une teinte vert pâle d'une douceur infinie. L'atmosphère était comme imprégnée d'une lumière cristalline qui permettait de distinguer encore nettement les objets, bien qu'il fût près de 9 heures. Félix Prenel étant sorti pour quérir sa fille et lui administrer le sermon qu'il méditait, la vit assise sur l'escalier de la citerne, agaçant d'un long panache de verdure une jolie chèvre qui gambadait comme une petite folle et baissait coquettement la tête pour faire parade de ses cornes. « Regardez-la donc !» cria Thérèse en apercevant son père. « C'est le plus charmant cadeau que vous m'ayez jamais fait. Elle me connaît si bien maintenant. On l'a ramenée du pré quand j'ai passé dans la cour. Elle s'est mise à sauter autour de moi. » Joseph interrompit le fermier en voyant passer un des domestiques. « Conduisez-moi cette bête à l'écurie et lestement. Vous devriez connaître un peu mieux votre service. » Puis il s'assit à côté de Thérèse et resta quelques minutes sans parler. La jeune fille avait bonne envie de se sauver, mais elle n'osait. « Tiens, dit enfin Félix Prenel, tu m'étonnes, Thérèse. À 15 ans, on t'en aurait donné 20 pour la raison. Maintenant, au contraire, on t'en donnerait 15 et moins que ça. Quels enfantillages !» Thérèse soupira. « Je n'ai guère eu le temps d'être enfant, c'est vrai, dit-elle. « Si je le deviens un peu quelquefois, il faut me pardonner, ça fait tant de bien. »« Tu m'étonnes, Thérèse, » répéta son père. « Ce n'est pas seulement la chèvre de Marcel, c'est Marcel aussi pour qui tu fais des bêtises. » Thérèse se redressa. « Je voudrais bien savoir comment, » dit-elle. « Par exemple, ces bouquets sur la tombe d'Anastasie. Je ne néglige pas la tombe de ma mère pour cela. » Tu te fais remarquer, les gens en parlent. Il faut bien qu'ils parlent de quelque chose. Laissez-les dire. Mais pas du tout. Thérèse Prenel, l'héritière des Alizier, associée dans la Gazette de la Semaine avec Marcel Auvernet. La jeune fille tressaillit. On ne dit rien sur nous, j'espère, s'écria-t-elle. On dit qu'ils te donnent des sérénades chaque soir et que tu l'écoutes. Est-ce vrai ? « Sont-ils stupides ? » fit-elle avec dédain. « Marcel joue pour moi tous les soirs. Oui, mon père. D'ailleurs, vous l'avez entendu vous-même. » Ainsi, Thérèse avouait les fleurs, avouait les sérénades. Le front du fermier se rembrunit. « C'est plus grave que je ne croyais, » pensa-t-il. Puis il reprit. « Parlons bas. On est très bien ici pour causer, mais il ne faut pas prendre des trompettes. » « J'avais autre chose à te dire, Thérèse. Il est temps de te marier. »« Aujourd'hui ?»« Ne sois pas impertinente. Tu as 20 ans. Ton trousseau est prêt, je suppose. »« Tout prêt, » dit-elle en souriant. On a beau être la froide et fière Thérèse Prenel, on sourit toujours en parlant de son trousseau. « Il ne manque plus qu'un mari, » reprit son père, « mais nous n'aurons pas à chercher bien loin. Veux-tu François Roulier ?»« Non, merci. » Son père a le plus beau domaine du district après le nôtre. Ça m'est égal. Pourtant, tu es paysanne jusqu'au bout des ongles et c'est le meilleur compliment que je puisse te faire. Tu ne voudrais pas d'un jeune monsieur en habit noir, un notaire, un fabricant d'horlogerie? Il serait bien embarrassé de moi et moi de lui, je vous assure. Qui veux-tu donc? Il y a le fils de la veuve Junot des Andrettes. « Monsieur le curé l'appelle un jeune homme intéressant parce qu'il a toujours le nez dans les livres, ce qui l'a rendu myope, qu'il empaille des hiboux et qu'il met des mousses dans du papier gris. C'est un savant. Le veux-tu ? Je ne suis pas savante et je déteste les bêtes empaillées. Qui donc veux-tu ? Choisis toi-même. Je t'ai offert la crème des parties. » Thérèse fut lente à répondre. Elle poussait du bout du pied une petite pierre, puis une autre, puis une troisième, qui roulait du haut des marches, comme si c'eût été autant de prétendants éconduits. « Personne, merci, » dit-elle enfin. « Thérèse, » reprit le fermier, en posant sa main sur le bras de la jeune fille, car elle faisait un mouvement pour se lever. « As-tu, n'importe où, près ou loin, je ne dis pas un amour, car tu es une fille raisonnable, mais une préférence ?» Il ne la vit pas rougir, car la nuit était plus sombre maintenant. Il sentit le tressaillement de sa main. « Je crois que oui, » répondit-elle avec franchise, « mais je n'en suis pas tout à fait sûre. Donnez-moi du temps pour réfléchir. »
« Ne creuse pas trop ce sujet-là, ça ne vaut rien pour les jeunes filles, » répliqua Félix Prunelle d'un ton bonhomme. Puis il se leva. Il avait appris maintenant ce qu'il voulait savoir. Sa résolution était arrêtée. Il était humilié dans son orgueil, exaspéré contre Thérèse. Il eût voulu enfoncer Marcel à 100 pieds sous terre. Et malgré cette tempête de colère qui se déchaînait en lui, il dit tranquillement bonsoir à Thérèse en ajoutant qu'il était fatigué et allait se coucher au plus vite. La jeune fille rentra tôt après. Elle monta dans sa petite chambre, s'assit à côté de son lit blanc et cacha sa tête dans l'oreiller. Elle pleurait. Pourquoi ? Parce qu'elle n'en était pas sûre. La question de son père était venue trop tôt ou trop tard. Hier, Thérèse eût pu répondre non en bonne conscience. Aujourd'hui, après la scène de l'orage, elle ne le pouvait plus, mais dire oui était trop difficile. « Certes, je l'aime. Il est bon, il est courageux, il s'est battu pour moi. N'ai-je pas dit l'autre jour à Alvin qu'il me semblait maintenant avoir un frère ? Mais ce n'est pas ce que mon père appelle une préférence. » Puis ces mots du fermier lui revenaient à l'esprit. Thérèse Prunelle et Marcel Auvernet. Les deux noms se valent, pensait-elle avec cette loyauté qui était le fond de son caractère. Seulement, je suis l'héritière des Alizier, voilà tout. Et pour appeler les choses par leur nom, il n'est pas probable que Thérèse Prunelle devienne Thérèse Auvernet, car je ne suis pas une reine pour m'offrir en mariage, et ce n'est pas Marcel qui osera jamais prétendre à moi. Félix Prunelle, lui, dormait déjà. Il n'avait pas été long à prendre une décision. Ah, elle n'en est pas tout à fait sûre. Tant mieux, car je ne lui donnerai pas le temps de s'en assurer. Ce Marcel, cet insolent, partira. C'est une grosse perte que je fais, mais Thérèse en pâtira comme moi. Je lui donnerai 500 francs de moins pour son entrée en ménage. Il ne sera pas dit que ma fille, après avoir été sage et presque bégueule jusqu'à 20 ans, aura fait parler d'elle, et pour qui ? Pour un rêveur, un sans le sou. S'il n'a pas d'argent, c'est que je ne lui en ai guère laissé, ne put s'empêcher de penser Félix Prunelle. Mais s'il est le premier caprice de Thérèse, il sera aussi le dernier, car je la marierai avant l'automne. Comment ferai-je pour envoyer Marcel sans scandale ? Bah, l'ouvrage montre, comme on dit. Les gens habiles n'inventent pas de prétexte, ils attendent qu'une bonne chance leur en envoie de tout fait. Demain, nous verrons. Là-dessus, il s'endormit tranquillement. Thérèse s'étonna bien de trouver son père si tolérant. Après la demi-confession qui lui était échappée, elle s'attendait à le voir jeter feu et flamme et elle eut alors défendu vaillamment sa cause et son droit. Mais il se garda de lui en donner l'occasion. Du proverbe qui dit « c'est en parlant qu'on s'entend », il en avait fait un autre tout contraire, mieux d'accord avec sa propre expérience. Plus on parle, moins on s'entend. Ainsi Thérèse, tournant et retournant dans sa tête le difficile problème, n'eut pas même la ressource d'une discussion animée, d'une vive contradiction qui lui eût aidé à se mettre au clair sur ses propres sentiments. Il en résulta que, le lendemain soir, elle continuait à n'en être pas sûre. Marcel avait été tenu constamment hors de son chemin. Elle ne l'avait aperçu qu'au dîner et sans pouvoir lui adresser la parole. D'ailleurs, elle l'eût évité elle-même. Comparé à ses habitudes de froide retenue, le mouvement spontané qu'il avait presque jeté dans les bras de Marcel le jour précédent lui semblait un incompréhensible vertige et elle en rougissait. La journée s'écoula monotone. Le ciel s'était de nouveau assombri. Il pleuvait, non pas à verse, mais tranquillement, posément, avec un air de n'en jamais finir. « Nous aurons demain le même temps pour varier, » dit Félix Prunelle en tapotant son baromètre, qui, malgré cet encouragement amical, s'obstinait à ne pas remonter. « Allez dire à nos hommes de ne pas faucher davantage. Tu les emploieras demain matin à raccommoder les outils cassés, Alphonse. Moi, je conduirai au boucher les deux veaux qu'on lui a promis. Je prendrai Marcel avec moi. Que le char soit prêt de bonne heure, ainsi que les filets, les cordes et tout ce qui s'ensuit. »
Il n'y avait pas la moindre nécessité à ce que Marcel accompagnât son maître. Seulement celui-ci, comme dit le proverbe, aimait mieux avoir la grêle devant lui que derrière. Il ne voulait pas perdre de vue son prévenu.